Alors, bienvenue à cette troisième rencontre sur ce thème de l'eschatologie. Comme je vous l'avais dit les dernières fois, j'ai fait donc un petit fascicule qui sera ici, qui sera disponible après la pause, pour qu'on puisse être attentif jusqu'au bout, on va dire. Et puis, ce petit fascicule reprend donc les trois rencontres et puis donnera une petite biographie des livres que j'ai consultés pour ce sujet. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté, on s'est rendu compte que les tribulations, eh bien, ce temps de tribulation, certains chrétiens donnaient une interprétation différente. Certains pensaient que l'enlèvement allait avoir lieu avant la grande tribulation, d'autres au milieu, et des troisièmes après. Et ça peut déstabiliser parce que finalement, on cherche un petit peu une dimension un peu dogmatique, c'est-à-dire très peut-être rigide. Notre foi, on a besoin de savoir quoi croire. Alors, au niveau du salut, il n'y a aucun problème. La Bible est claire. Au niveau de l'eschatologie, je vous avais dit la dernière fois qu'il n'y a pas une seule eschatologie, mais il y a plusieurs hypothèses eschatologiques. On ne peut pas dire que l'une est fausse par rapport à l'autre, mais simplement, on n'a pas toute la vision de Dieu pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Et puis, on tâtonne, hein, comme on a parfois peut-être l'habitude de le faire. Alors, l'eschatologie aujourd'hui, donc, on va dépasser la tribulation, puis on va arriver au temps où Jésus revient sur la terre. Et ce temps s'appelle le millénium, donc on va parler du millénium aujourd'hui. On va aussi voir l'Apocalypse. C'est un livre un petit peu compliqué. On va voir comment est-ce qu'on peut interpréter l'Apocalypse. Et puis enfin, comment est-ce qu'on peut lire l'Apocalypse. Puis on va travailler sur la petite leçon que vous aviez sur cette dernière partie, la Nouvelle Jérusalem, voir les réalités que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, dans les deux derniers chapitres. Et puis dans les trois derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Je vais aussi expliquer aujourd'hui ce que nous croyons dans l'église de réveil de l'Escale à Yverdon. On va lire notre confession de foi qui parle du retour de Jésus pour voir comment on se situe par rapport à tout ce qu'on a entendu. Et puis enfin, je vous donnerai un schéma chronologique qui peut être admis par la majeure partie des chrétiens évangéliques pentecôtistes de Suisse romande, et puis pour avoir un petit peu une vision des choses qui vont se passer d'ici la fin des temps. Et puis à la fin, il y aura un temps de questions. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Et au milieu, comme d'habitude, une petite pause pour peut-être poser l'un à l'autre des questions. Alors, parlons du millénium maintenant. Le millénium, ne se trouve pas dans la Bible. Le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible. C'est un mot qui a été créé, inventé, et qui vient de l'origine latine de mille, et puis de annus, qui veut dire mille ans. Voilà. Merci. Mais pourtant, en Apocalypse 20, on trouve le mot millénium un petit peu caché, en fait, il va expliquer, l'apôtre Jean, que Jésus va venir pour un règne de 1000 ans, et il va utiliser le mot 1000 ans, puisque impressionnant, c'est qu'il va utiliser 6 fois le mot 1000 ans dans 7 versets différents que je vous propose de lire en Apocalypse 20. C'était notre lecture, aujourd'hui vous allez vous dire, ah oui, je me souviens, j'ai lu ça. Puis je vis descendre du ciel un ange, donc c'est les versets 1 à 7, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît pas les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc on se rend compte dans ce passage qu'il y a vraiment 1000 ans. Et puis, on verra par la suite comment est-ce qu'on va interpréter l'Apocalypse, parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, eh bien, c'est en fonction des clés de lecture que vous aurez pour comprendre l'Apocalypse. Et si vous comprenez l'Apocalypse d'une telle façon, donc vous allez l'interpréter d'une telle façon, puis si vous le comprenez d'une autre, alors on ne va pas dire que tous sont fausses, on va dire que la plupart sont cohérentes, et je vous montrerai que certains théologiens illustres que vous connaissez peut-être sont les tenants de différentes théologies au niveau du millénium. La plus communément présente dans nos milieux, c'est ce qu'on appelle le prémillénariste. Alors, c'est des mots un peu compliqués. Donc, c'est comme pré-tribulationniste. Ça voulait dire qu'on serait enlevé avant la tribulation. Prémillénariste, eh bien, les tenants de cette thèse disent que les 1000 ans sont à prendre d'une façon littérale. Donc, 999 années plus une année égale 1000 années. Donc c'est vraiment un temps de 1000 ans et qui va indiquer le retour de Jésus-Christ pour un royaume sur la terre qui va durer 1000 ans à partir du moment où il va descendre sur la terre. Il est dit, on l'a vu la dernière fois, que les morts en Christ qui sont enlevés, qui sont ressuscités, eh bien, vont redescendre avec Christ pendant ces 1000 années. Et puis, ils vont régner avec lui sur la terre. Donc, c'est un temps qui est un petit peu compliqué, parce que des fois, on se dit, mais est-ce que je rêve ou est-ce que c'est la vérité, ce que je lis ? Merci. Dans la pensée des pré-millénaristes, donc Jésus revient sur la terre, règne pendant 1000 ans, et on va prendre d'une façon, c'est littéral ce qu'on a lu dans Apocalypse 20, c'est-à-dire que le diable va être lié pendant 1000 années, qu'il va être relâché, et puis qu'il va essayer de séduire pour un dernier combat les personnes qui sont sur la terre pour les empêcher d'entrer dans la grâce de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et puis, ensuite, il y aura différents jugements et enfin, il y aura cet état de grâce, ce paradis final, finalement, auquel nous aspirons tous. Dans la conception de l'Apocalypse, les pré-millénaristes divisent l'Apocalypse en trois. Tout le monde, finalement, divise l'Apocalypse en trois parce qu'il y a trois parties qui sont très, très bien différenciées. La première, c'est les chapitres 1 à 3. Ces 7 églises de l'Apocalypse dont on parlera tout à l'heure, eh bien, eux pensent que ce sont des églises qui sont historiques, donc qui ont vraiment existé. Mais également, et c'est là aussi il faut suivre, également une représentation des étapes de l'histoire de l'Église qui peut être assez intéressante à voir, ou finalement de l'histoire toute court. Les chapitres 4 à 19, qui vont parler essentiellement du temps de tribulation, hein, puisque du chapitre 4 au chapitre 19, vous avez l'histoire des coupes, des trompettes, des sceaux, du livre, de la bête, toute cette partie d'Apocalypse 4 à Apocalypse 19, c'est le temps de tribulation. Relisez Apocalypse avec ces lunettes-là, 4 à 19, tribulation, grande tribulation, puis vous verrez que finalement, il y a des choses qui sont intéressantes que vous pourrez déduire. Ils pensent que ce sont des événements qui vont vraiment se passer dans le futur et que ce qui est écrit dans ces quelques chapitres sont véritablement des prophéties qui vont se réaliser un jour. Et les deux, trois derniers chapitres, 20, pardon, ou les quatre, ouais, trois derniers chapitres, 21, 22, c'est littéralement le règne de 1000 ans, le jugement dernier avec la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, on pourrait dire, ah ben, ça m'intéresse, ça c'est intéressant. Donc moi, je serais plutôt pour ça. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des personnes comme Francis Schaeffer qui sont tenants de cette thèse. Et Francis Schaeffer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe et théologien évangélique qui est né aux États-Unis, qui est décédé maintenant il y a à peu près 30 ans, qui est né en 1912, donc, et qui a écrit des livres comme « Démission de la raison », comme « Dieu ni silencieux ni lointain », qui est assez connu, qui est un philosophe très très connu, et puis qui a beaucoup aussi travaillé sur l'éthique chrétienne. Donc lui, il est prémillénariste. D'autres personnes plus proches de chez nous, Jules Marcel Nicole, qui lui est décédé il y a, vous dites il décède tous, mais un jour oui, il y a une vingtaine d'années, qui était pasteur et professeur suisse, qui a exercé son ministère en France. Il a écrit, j'ai ici un livre, ça c'est des livres en bibliothèque, j'ai pas pris, mais il a écrit, Jules Marcel Nicole, un livre par exemple, Précis d'histoire de l'Église, où on explique tout ce qui se passe au niveau de l'histoire de l'Église. Il a aussi écrit Commentaires de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, ou bien Précis de doctrine chrétienne. Donc c'est vraiment un théologien solide auquel beaucoup s'appuient. Et puis, vous avez aussi Frédéric Godet, qui lui est plus vraiment de chez nous, c'est en Neuchâtelois, Frédéric Godet. Et puis, c'est un écrivain, un théologien suisse aussi, donc, qui est fondateur de l'Église indépendante de Neuchâtel, et puis qui a fait beaucoup de commentaires sur les évangiles, l'évangile de Jean, de Luc, qui a fait aussi des commentaires sur Romains et 1 et 2 Corinthiens. Ici, j'ai un des deux tomes du commentaire sur la première épître de Paul aux Corinthiens, et c'est vraiment du solide. Et puis, il a aussi fait un livre essai sur l'Apocalypse, donc il était en plein dans le sujet. Lui, donc, c'est un prémillénariste. Vous avez des dénominations qui sont dites prémillénaristes, l'Armée du Salut, qui n'est pas à présenter, et puis également l'Église Ménonite. Ça, c'est au niveau des dénominations. Et puis, beaucoup de dénominations évangéliques se réclament d'être prémillénaristes, donc qui voient presque littéralement les choses arriver et qui vont décomposer l'Apocalypse dans le schéma que je vous ai donné. Alors, vous êtes certainement peut-être reconnu dans ce point-là. J'ai encore trois autres. Puis, pas pour vous embrouiller, mais pour vous montrer que finalement, des hommes de Dieu, théologiens, reconnus, sinon mondialement, au moins dans notre francophonie, ont réfléchi et puis se sont posés en tant que docteurs de la parole et puis se sont dit, ben moi, je serais plutôt ceci ou plutôt cela, puis plutôt que de dire, ouais, mais ça, c'est pas juste, ben, selon comme attentif, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on essaie de comprendre la pensée de Dieu dans l'Apocalypse, mais on n'est pas sûr d'y arriver du premier coup. On va un petit peu en tâtonnant, et puis c'est ce que les post-millénaristes vont essayer de nous dire. Alors, pour faire l'inverse, maintenant, je vais d'abord dire ceux qui pensent qu'ils sont post-millénaristes, puis après je vous expliquerai ce que c'est. Eh bien, vous avez Charles Spurgeon. Qui ne connaît pas Charles Spurgeon? Charles Haddon, d'ailleurs, son vrai prénom, qui lui était une personne qui est née et qui est décédée au XIXe siècle et qui était un prédicateur réformé baptiste britannique qui a écrit Les Rendez-vous du matin ou bien Les Trésors de la foi ou Tout par grâce, des petits livres que vous avez peut-être chez vous, que vous lisez chaque matin, chaque soir, de Spurgeon. Ben voilà, c'est un monsieur que nous estimons beaucoup, qui est très spirituel dans ses approches et qui pourtant peut-être ne pense pas la même chose que vous puisqu'il est post-millénariste, de même que les églises baptistes, hein, puisqu'il est un petit peu le tenant de ces dimensions, quelques facultés de théologie évangélique, pas toutes, et puis les chrétiens protestants réformés libéraux. Alors qu'est-ce que ce post-millénariste ? Alors, eux disent que les 1000 ans ne doivent pas être prises d'une façon littérale, mais symbolique. Donc, on va travailler au niveau des symboles. Finalement, c'est un long intervalle qui va précéder le retour de Jésus, qui n'est pas vraiment défini, mais l'idée, puisque c'est un symbole, que ces 1000 ans de règne de Christ représentent le fait que finalement, à la fin des temps, eh bien, Jésus va être le victorieux, et l'Église aussi. Prends courage, nous dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Donc, quelque part, si Jésus est le victorieux, nous qui lui appartenons, nous sommes aussi victorieux. La Bible dit même qu'on est plus que vainqueur, et que finalement, l'Église, et d'une façon symbolique, c'est la victoire de Jésus sur ce monde, et puis qu'on vit actuellement une sorte de règne de paix, plus ou moins paisible selon les pays, et puis que Jésus va revenir sur la terre, et qu'à ce moment-là, il n'y aura pas une période de 1000 ans, mais ça sera directement le jugement dernier. Donc il n'y a pas de millénium en tant que tel, il y a simplement. Nous vivons un temps difficile, facile, paix, il y aura la tribulation, puis après, dès que Jésus revient, eh bien c'est fini. Le jugement dernier est là, le tribunal de Dieu, le jugement final est là, et puis quand on lit Matthieu 25, quand Jésus dit « Quand je reviendrai, je séparerai les boucs d'avec les brebis », vous connaissez ce passage? Puis en fait, on se rend compte ici que ben, les boucs et les brebis, c'est les bons et les méchants, c'est les gentils et les pas gentils, c'est ceux qui ont servi Dieu, c'est ceux qui n'ont pas servi Dieu, puis ils sont jugés en même temps. Alors que ceux qui pensent que non, que d'abord il y a la première résurrection, puis qu'ils sont déjà jugés, et puis qu'ensuite, au jugement dernier, eh bien, ça sera les méchants, les sans-Dieu qui seront jugés. Eh bien, on comprend bien ceci. Puis là, tout est mis en même temps. Eh bien, cette doctrine de post-millénariste repose sur Matthieu 25 en disant que finalement, il n'y aura pas la première et la deuxième résurrection, ça sera en même moment. Et puis que Apocalypse 25, pardon, au niveau du jugement dernier, et puis Matthieu 25, ce serait la même chose. Alors, eux, ils divisent l'Apocalypse comme ceci, chapitre 1 à 3, donc les sept églises. Ce sont des églises historiques, donc comme les pré-millénaristes. Le chapitre 4 à 19, ce ne sera pas des prophéties qui annoncent la fin des temps, ce sera simplement des événements historiques qui auront lieu dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire depuis le moment où Jean va recevoir ses révélations dans l'île de Patmos, on est à peu près dans les années 80, 85, 90, hein, ça dépend tout comment ce que les théologiens y comptent et puis y remarquent, mais c'est ces zones-là. Et puis les chapitres 20 à 22, où il est parlé de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, eh bien, c'est simplement la victoire de Jésus sur le monde. Vous connaissez ce passage qui nous dit que le talon écrasera le serpent? Eh bien, c'est quasiment le règne de Christ qui vient écraser, qui descend sur la terre, de façon symbolique, puis qui vient écraser l'ennemi pour montrer que c'est Jésus qui est le plus grand. Et c'est étonnant, ben, ils sont nombreux, hein, puisqu'il y a même des facultés de théologie évangélique qui pensent, et puis Spurgeon, les baptistes sont aussi là pour. Alors, si vous êtes avec un baptiste, puis que vous voulez parler théologie, et puis que vous ne comprenez pas sa façon de considérer ben, la lecture du livre de l'Apocalypse, vous n'allez pas vous comprendre. D'abord, il faut définir un petit peu quelles sont nos façons de comprendre l'Apocalypse. Et puis une fois qu'on a compris, alors on peut parler, mais il faut vraiment trouver le curseur qui nous permettra de nous mettre sur la même longueur d'onde. Et puis vous avez un troisième tenant, dont vous avez les prémillénaristes, qui sont littérales, une vision littérale, les post-millénaristes qui ont une vision symbolique, et puis vous avez les amillénaristes, A étant quelque chose comme étant privatif. Donc, il n'y a pas de millénium. Donc, eux vont dire, il n'y a pas de millénium du tout. Ce n'est même pas une période comme les prémillénaristes pensent que c'est 1000 ans, comme les post-millénaristes pensent que c'est une période plus ou moins grande jusqu'au retour de Jésus. On ne peut pas dire ce sera 2000 ans, 2500 ans, 3000 ans, mais ça sera, elle est là. Tandis que eux, ils disent, non, 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 ce n'est pas une période, c'est peut-être l'état intermédiaire des morts, finalement. Puisqu'ils attendent, donc on va dire que c'est un temps où ils attendent, quoi. Ou bien ils vont dire, non, non, il faut spiritualiser l'Apocalypse, et puis on va dire que ce temps de la millénarie, ce n'est pas une période, c'est quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'Église. En fait, on va dire que Christ peut venir n'importe quand, il n'y a pas de souci, il ne veut pas attendre une période de 1000 ans ou il ne va pas attendre la tribulation ou autre, mais il va simplement mettre en place son règne, juger les personnes, et la singularité peut-être de l'amillénariste, c'est que autant dans le prémillénariste que les postmillénaristes, il y a un avenir pour les Juifs. Parce que les Juifs, à un moment donné, eh bien, Dieu va les reprendre finalement. Et puis, ils seront en tout cas très importants au niveau de la terre, puisqu'ils vont avoir tout un ministère de reconstruction. C'est là qu'on trouve des paroles dans le Testament qui disent un Juif, 10 saisiront le pan d'un juif et diront règne sur nous. Et ça, c'est dans les dimensions eschatologiques, dans le temps du millénium. Eh bien, pour les amillénaristes, il n'y a pas de millénium, donc il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'avenir pour les juifs. Les juifs, ils ont été disséminés en 70 après Jésus-Christ par le général Titus quand il a détruit Jérusalem, et c'est fini. Alors, il y a peut-être un petit peu 48, tout ça, où ils sont toujours là, mais quelque part, c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Qui défend cette thèse? Saint Augustin. Alors, Saint Augustin, il est vieux, puisqu'il était du 4e siècle, et Saint Augustin, c'était un homme qui a découvert la grâce, c'était vraiment le premier père de l'Église qui a compris ce qu'était la grâce. Et puis, qui était aussi un docteur de l'Église, il y avait quatre pères de l'Église. Vous connaissez peut-être Tertullien, c'est le deuxième plus connu. Saint Augustin, c'est aussi un très connu. Et puis, lui, il a écrit un livre qui s'appelle La Cité de Dieu. Et puis, lui, il était persuadé qu'il n'y avait pas de millénium. Alors, du coup, comme c'est un précurseur un petit peu de l'Église catholique, eh ben, évidemment, ben, l'Église catholique romaine, elle est aussi amillénariste. Mais vous n'avez pas que l'Église catholique, vous dites, oh, mais c'est ceux qui n'ont pas compris. Il y a l'Église réformée, ils disent, oh, ben, ils n'ont pas compris. Il y a l'Église luthérienne, il y a quelques facultés de théologie évangélique, et puis il y a une sommité, comme Henri Blocher, qui lui est amillénariste. Donc, qui est Henri Blocher? Henri Blocher, c'est un théologien évangélique français qui est toujours vivant, qui est né en 1939. 37, pardon, et puis qui est une sommité aussi au niveau théologique francophone, qui écrit des livres comme Révélation des origines, comme La Bible au microscope, qui écrit plein, qui travaille pour Rockma aussi, qui est une revue théologique protestante assez poussée, je dirais presque assez élitiste au niveau théologique, et puis qui est tout à fait amillénariste. Donc on se dit, oulala, tous ces sommités, qui suis-je, moi, pour pouvoir oser prétendre à avoir une petite étincelle de réponse dans ce millénium? Ben, c'est pas fini, parce que vous avez encore un sous-groupe des prémillénaristes, et ce sous-groupe des prémillénaristes, on les appelle, excuse pour les mots un petit peu barbares que je vous fais, mais je ne vais pas vous en faire grâce aujourd'hui parce que c'est important de l'entendre au moins une fois. On appelle ça les dispensationalistes. Donc c'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot. Alors, ce sont des prémillénaristes, dispensationalistes. Et puis, comme les prémillénaristes, ils sont tous pré-tribulationnistes, on va dire que les dispensationalistes sont prémillénaristes et pré-tribulationnistes. Avec ça, vous avez une grosse tête et puis vous avez besoin de la pause tout de suite. Bien. Donc le prémillénarisme, comme je vous ai dit, c'est une forme de prémillénariste, ce dispensationalisme. Et puis, il va diviser l'histoire de l'humanité, non plus de l'Église, mais de l'humanité, en sept périodes qui sont appelées dispensations. Alors, qu'est-ce qu'une dispensation ? Une dispensation, c'est un temps, une période, dans laquelle l'homme, l'être humain, va être éprouvé en fonction de son obéissance par rapport à une révélation que Dieu va lui donner. Et puis chaque dispensation va se terminer par l'échec de l'homme et puis par un jugement de Dieu. Ainsi, on va rapidement les voir, les sept dispensations. D'abord, vous avez l'innocence avec Adam et Ève, où Dieu leur dira « Tu ne prendras pas de l'arbre du fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et puis, ils ont résisté pas très longtemps, on va dire. Et puis, il y a eu un échec qui a suivi d'un jugement et puis d'une expulsion d'Éden. Et puis, la fin de la première dispensation a eu lieu à ce moment-là. Ensuite, il y a une deuxième dispensation qui est la conscience, où l'homme doit rendre compte à Dieu en fonction de ce que sa conscience lui dicte. Et puis on se rend compte que dans cette dispensation-là, il n'y a qu'une personne seulement à la fin de cette dispensation qui va avoir conscience que Dieu existe et qui va suivre Dieu sans forcément avoir de révélation, mais seulement au niveau de sa conscience, c'est Noé. Et le jugement de Dieu sur cette dispensation, puisqu'il y a eu un échec de suivre Dieu au travers de la conscience, celle des déluge, qui verra l'extermination de toute l'humanité, sauf un groupe de 8 personnes. Et puis ensuite, une nouvelle dispensation, Dieu va donner à l'homme une sorte de l'idée de se gouverner avec des villes, avec des gouvernements humains, avec un système politique clair. Et l'homme, encore une fois, va se rebeller, va refuser d'entrer dans ce gouvernement politique humain que Dieu propose et va s'insurger contre Dieu au point de chercher à construire un édifice qui va rivaliser avec Dieu pour atteindre Dieu. C'est Babel. Et là, il y a aussi un jugement. Dieu va confondre les langues et puis les peuples vont ne plus être dans un cadre, je dirais, de réalité gouvernementale, mais ils seront complètement éclatés dans toute la planète. Ensuite, vous avez la promesse avec Abraham, où Dieu promet à Abraham un certain nombre de choses, et puis il promet déjà la bénédiction à celui qui croit en lui. Donc on a de plus en plus quelque chose qui est de plus en plus personnel dans une dimension de foi. Et puis Abraham, c'est vraiment le premier avec cette vision familiale, personnelle, à long terme, d'une relation avec Dieu. D'ailleurs, il va faire des alliances avec Dieu. Vous vous souvenez quand il doit découper des morceaux d'animaux, puis Dieu va passer au milieu, puis faire alliance avec lui. Vous vous souvenez de ces passages dans l'Exode, dans la Genèse? C'est vraiment cette promesse. Et puis, finalement, on se rend compte que ça ne marche pas trop, quoi. Regardez avec Jacob, une promesse. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Il a une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Il y a plus cette dimension de monothéiste. Avec Abraham, c'était pas mieux. Il avait qu'une femme, mais il la vendait, il la donnait en pâture au lit de Pharaon une fois, après deux fois. Enfin, c'était pas folichon quand même. Pourtant, Abraham est appelé le père de la foi. Donc, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui est important. Mais dans cette dispensation-là, il a fait le maximum, puis comme tous les autres, puis ils ont échoué. Et puis, cet échec, ça a été qu'ils ont été, à un moment donné, esclaves, je dirais, de l'homme en Égypte. Puis il a fallu qu'ils puissent s'en sortir avec une nouvelle dispensation qui sera cette fois-ci la loi. Puis la loi, eh bien, va permettre de compartimenter finalement la façon de vivre d'un peuple pour qu'il puisse être agréable à Dieu. Et puis vous avez ces 10 commandements où Dieu va plus faire alliance avec un peuple, avec une personne, pardon, mais va faire alliance avec un peuple qui sera Israël. Et puis on connaît l'histoire d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on fait des très très courts résumés de ce qui se passe. Israël est un peuple avec la nuque raide, qui refuse de se soumettre, qui refuse de laisser le Seigneur régner dans sa vie, sur ses biens, dans son peuple. Vous avez eu au 6e siècle avant Jésus-Christ Babylone qui est venue attaquer Jérusalem et qui l'a détruite. Les gens ont été mis en captivité. C'était un petit peu la catastrophe. Même avant, quand Salomon est décédé, le royaume a éclaté parce qu'il ne voulait plus avoir vraiment une théocratie, mais il voulait une royauté. Donc il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Déjà avec Saul, Saül, il ne voulait plus que Dieu règne sur eux, mais il voulait que ce soit un homme qui règne sur eux pour être comme les autres. Et puis finalement, le peuple d'Israël s'est éloigné petit à petit de Dieu. Au point où, dans l'époque de Jérémie, on faisait de l'occultisme dans le temple de Salomon, dans le lieu saint. Donc, on invoquait les morts, on sacrifiait aux idoles des animaux dans le temple de Salomon, tellement que ils avaient vraiment abandonné Dieu. Et puis, c'était les sacrificateurs, hein, qui faisaient ça. C'était les représentants de Dieu sur le peuple d'Israël qui faisaient de l'occultisme dans le temple de Salomon. Donc c'est impressionnant, hein? Et on voit que la loi, ça n'a pas marché. La loi a montré vraiment que l'homme n'arrivait pas à plaire à Dieu. Et puis cette loi, eh bien, elle était caduque par l'arrivée de Jésus, par sa mort, qui a non pas aboli la loi, mais qui a accompli la loi lui-même pour nous en libérer, pour nous faire entrer dans une 6e dispensation qui est l'Église, qui est un temps de grâce où Dieu pardonne cette fois-ci à celui qui croit en Jésus, où toutes les autres dispensations sont rendues caduques. Et puis, ce temps va aller jusqu'à ce que la Bible appelle l'apostasie, c'est-à-dire où même où les chrétiens vont se rebeller, finalement, on ne va pas faire mieux que les juifs. Hein, l'histoire se répète au moment où Jésus va revenir et puis va permettre que, eh bien, il y ait un point final à l'Église et puis que l'Église puisse être quand même sauvée et puis qu'elle puisse régner avec lui. Et puis ce temps de jugement des nations va faire suivre la dernière dispensation qui s'appelle le millénium, on y revient, qui est un règne donc de 1000 ans. Dans lequel Jésus va établir ce règne sur la terre, et puis va se terminer, parce qu'il y aura aussi un échec, hein, puisque Satan sera lié, mais il va être libéré 1000 ans après, puis ce sera le dernier combat de l'ennemi, et puis les gens ils vont se rapprocher de Satan plutôt que de Dieu, et puis Dieu va arrêter ceci, et puis ce dernier moment de cette 7e dispensation sera le jugement dernier, avec la destruction de la planète Terre et de tout ce qui va avec. Donc voilà, les 7 dispensations. Alors, comment est-ce que l'Apocalypse se divise? Ben, c'est la même chose que comme les dispensationalistes sont prémillénaristes, ben c'est exactement la même structure, c'est-à-dire les chapitres 1 à 3, c'est des églises qui sont absolument historiques, mais c'est aussi une représentation des étapes de l'histoire. Le chapitre 7 à 19, 4 à 19, c'est vraiment le temps de la tribulation, des événements futuristes qui vont vraiment se passer. Et puis enfin, chapitre 20 à 22, ben c'est la même chose, c'est le règne de 1000 ans, le jugement dernier avec cette nouvelle Jérusalem que l'on voit en Apocalypse 21-22. Qui sont les défenseurs de cette thèse? Alors, vous avez Oh, j'aime bien dire son prénom aussi parce que c'est un beau prénom. John Nelson Darby. Et John Nelson Darby, c'est celui qui a écrit la Bible dite Darby. Et ce John Nelson Darby, c'est un prédicateur chrétien anglo-irlandais. Et puis c'est lui qui a inventé le dispensationalisme. C'est lui qui l'a créé, qui a essayé de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, c'est bien sûr le fondateur des églises darbistes. Il a écrit ben, la Bible Darby. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaie d'être très près, puisque la Bible Darby, c'est la traduction qui est la plus proche du texte hébreu, grec, hébreu-grec, même si des fois on ne comprend pas toujours, parce qu'il voulait vraiment être très proche. Puis c'est des termes des fois un petit peu compliqués. Alors pour dire, bon, ben, il y a lui, ok. Mais il y a aussi un autre qui s'appelle René Pache, qui lui est aussi un homme qui est décédé, qui a vécu toute sa vie au XXe siècle, qui est décédé en 79, donc il y a quelques années, qui est un théologien franco-suisse, bibliste, pasteur protestant, et puis qui a, par exemple, ça c'est un vieux livre, mais quand même, Pache, voilà, L'au-delà. Il a aussi fait Le retour de Jésus-Christ. Il a aussi fait le nouveau dictionnaire biblique avec d'autres. Vous savez, ce gros pavé, le nouveau dictionnaire biblique et le nouveau commentaire biblique, ben c'est la patte de René Pache là-dessus. Alors on pourrait dire, ben c'est quelqu'un qui est intéressant. Donc si vous n'êtes pas dispensationaliste puis que vous lisez Le retour de Jésus-Christ, eh ben vous allez entendre sa couleur. Si vous êtes prédispensationaliste, vous dites ah, c'est un truc génial, je te le prête, lis-le. Et puis, bof, parce que moi, je n'ai pas forcément cette lecture de la Bible, en tout cas de l'Apocalypse. Vous avez aussi un autre, j'aime aussi ses prénoms, parce que si des fois vous êtes en panne d'inspiration pour des prénoms de garçons, Sirius Ingerson, c'était son prénom. Et il est plus connu dans son nom de famille par le nom de famille de Scofield. Scofield, c'était un copain de Darby. Et puis, il était admiratif de cette dimension des dispensations. Puis lui, il a aussi écrit une Bible. Donc, Cyrus Ingerson Scofield, il est né en 1800. 43, puis il est mort en 1921, donc je ne pense pas que l'un d'entre nous l'ayant connu. C'est un théologien américain, pasteur, congrégationaliste, c'est aussi un écrivain. Et puis il a écrit la Bible dite Scofield, qui a une particularité, c'est que la Bible Scofield, elle est annotée. Mais elle est annotée en fonction de ses propres commentaires. Et donc c'est une Bible qui est annotée par l'auteur. Maintenant, vous avez différentes Bibles, comme je vu tout à l'heure ici, vous avez la Thomson, qui est une Bible qui est aussi annotée, mais qui est annotée par plusieurs théologiens pour trouver un consensus pour que vraiment cette Bible puisse représenter la théologie communément admise par le maximum de chrétiens. Scofield, lui, c'était un travail personnel. Il a fait ça tout seul. Ce qui fait que quand on lit les commentaires de Scofield, eh bien, on va y retrouver les dispensations. Qui a une Bible Scofield, par exemple, parmi vous, quelques-uns. Et puis, vous y verrez aussi que Scofield, parce que c'était un homme qui voulait aussi tout savoir, tout comprendre, puis qui voulait donner aux chrétiens qui allaient lire la Bible, sa Bible, des certitudes, il a même découvert, avec de savants calculs, quand la Terre a été créée. Et vous trouvez ça dans la Bible Scofield, dans le livre de la Genèse. Et puis, il est arrivé à la conclusion que la Terre a été créée en moins 4004 avant Jésus-Christ. Alors, on se dit, ouf, Scofield, ben oui. Donc, il faut faire attention. Dans les Bibles annotées, hein, tout ce qui est annoté, c'est pas forcément parole d'évangile. Le texte biblique est parole d'évangile. Les annotations sont des annotations qui sont des annotations pour essayer de comprendre, de cerner ce que veut dire le texte, mais elles n'ont pas la valeur du texte biblique. Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que ça a la même importance, ces annotations, que le texte qui lui-même est inspiré par Dieu. Ça, c'est une grande différence à faire. Donc voilà, Scofield. Et puis, vous avez aussi la plupart des... Donc, vous avez Darby, Pash, Scofield, la plupart des églises pentecôtistes, la plupart des instituts théologiques évangéliques. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans cette dimension-là. Vous allez me dire, oui, mais avant, il y avait déjà aussi la plupart des églises, des instituts qui étaient, des dénominations qui étaient prémillénaristes. C'est normal, puisque comme le dispensationalisme est issu du prémillénarisme, c'est normal qu'on retrouve les deux réalités dans les deux thèses. Et d'une façon, je dirais presque conventionnelle, les églises pentecôtisantes de Suisse romande sont souvent dispensationalistes. Ça fera plaisir à mon ami qui est devant moi qu'il l'est. Donc, ça c'est des thèses. Alors, il faut comprendre ces points-là, donc au niveau du millénium, et puis il faut comprendre aussi au niveau des tribulations, pour lire l'Apocalypse. Puisque dans les chapitres 4 à 19, vous avez la tribulation, donc il faut savoir si vous êtes pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste. Puis le chapitre 20, c'est le millénium. Donc vous ne pouvez pas me dire, explique-moi Apocalypse 14, 17, je ne sais pas si ça existe, mais je donne un exemple comme ça, parce que je ne sais pas ce que vous pensez. Et en fonction de votre compréhension de la tribulation et du millénium, votre interprétation des textes va être différente. Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué quand on ouvre le livre de l'Apocalypse. Alors, on va dire, ouh, c'est un livre compliqué. C'est vrai. Mais c'est un livre qui, pourtant, on peut avoir certaines clés. Et puis, j'aimerais vous donner quelques clés d'interprétation aussi. Mais je ne vais pas vous faire du bien, dans le sens que je vais peut-être encore plus vous embrouiller. Mais l'idée, c'est de vous montrer que... Il faudrait toute une vie pour expliquer l'Apocalypse. Là, je vais vous donner des clés qui vous permettront d'ouvrir des chapitres pour mieux les comprendre. Alors, tu vas l'aimer, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer parce qu'après, à la fin, eh bien, on va essayer de tirer son filet pour voir s'il y a du poisson. Alors, l'Apocalypse. J'ai encore un petit moment. On va faire la pause après avoir digéré l'Apocalypse. Alors, comment est-ce que je vais interpréter l'Apocalypse? Comment je vais lire l'Apocalypse? Alors, les gens font preuve de beaucoup d'imagination, vraiment. J'ai lu des livres, mais qui sont complètement farfelus. Vraiment farfelus, qui parlent de l'Apocalypse. Puis il y en a plein. En fait, si vous ne savez pas quoi écrire, puis vous êtes un petit peu théologien ou bien un peu illuminé, faites un essai sur l'eschatologie, faites un essai sur le livre de l'Apocalypse, puis vous dites ce que vous pensez, vous serez un millionième, deux millionième personne qui va essayer, parce qu'il y a plein de gens qui s'essayent, en disant « Ah, oh, moi je crois que j'ai trouvé cette révélation ». Même moi, j'ai essayé un petit peu, vous verrez par la suite. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout de ma démarche, parce que j'étais convaincu que le maximum du travail avait déjà été fait. Donc il y a des centaines de commentaires, des milliers de livres qui ont été écrits sur comment lire l'Apocalypse, qui sont plus ou moins bons, mais on ne sait pas quand on l'achète. Même le, ça vient de Paz, ça vient de Spurgeon, ça vient de... Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas de Schaeffer, on ne sait même pas, ah, c'est des gens qu'on connaît bien, mais on ne sait pas quelle est leur pensée, ou on ne savait pas jusqu'à présent. Donc... et puis si c'est un illustre inconnu, puis si le vrai mystère de l'Apocalypse révélé, ah ben c'est un titre qui m'attire, je vais acheter le livre, puis dedans il n'y a peut-être que des bêtises, ou quelque chose, deux, trois trucs intéressants, donc je suis un petit peu piégé. Donc j'ai besoin de clés, j'ai besoin de garde-fous. Puis pour avoir de garde-fous, eh bien, il y a quatre écoles de pensée qui ont émergé un petit peu pour comprendre quand on lit l'Apocalypse. Alors, de nouveau, ça sera un petit peu des mots compliqués, mais je vous donne les vrais noms, puis j'expliquerai quand même ce que ça veut dire, et puis vous comprendrez que facilement, vous arriverez, vous, à vous situer. Et en vous situant, vous serez en tout cas ce que vous serez. Vous n'êtes pas, ce qui est aussi bien. Et puis ça ferme des portes. Alors, vous avez d'abord ce qu'on appelle l'école prétériste. Alors, l'école prétériste, donc, c'est une école qui vous dit comment lire l'Apocalypse. Puis elle va vous dire, en fait, dans le livre de l'Apocalypse, c'est uniquement symbolique. C'est que ça. Et puis, ce symbolisme dans l'Apocalypse va bien sûr raconter les événements de l'époque, mais par exemple, quand on va parler de ces anges qui sonnent des trompettes, ou qui versent des coupes, ou des sceaux qui doivent être ouverts, eh bien, ça ne parle pas du tout du futur. Non, non, ça. Jean va juste exprimer son indignation. Il est fâché contre les abus de son temps, du premier siècle. Et puis, il dit, oh, je suis pas content avec les chrétiens de l'époque, avec les gens de l'époque. Et puis, je vais écrire ça d'une façon symbolique pour pas me fâcher avec les autorités politique de l'époque. Il était déjà en prison, enfin dans une île emprisonnée à Patmos, donc il était déjà fâché contre les autorités, il voulait pas plus se fâcher. Donc il va écrire ce livre d'une façon symbolique pour dire son ras-le-bol par rapport au système politique actuel, et puis aux chrétiens aussi qui dévient un petit peu de ce que Jésus avait donné. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que je suis prétériste? Est-ce que le prétériste, oui. Est-ce que je pense, ça veut dire, c'est que l'Apocalypse, c'est juste l'indignation de Jean par rapport à... P-R-E, accent aigu, T-E, accent aigu, R-I-S-T-E. Des fois, les écoles, ils donnent des noms hein, pour paraître très... Donc, c'est uniquement les abus du temps de Jean. Terminé. Pas de millénium, pas de tribulation. Sympa, quand même. Hein finalement, voilà, c'était juste une petite histoire, une allégorie, on va dire ça. Deuxième point. L'école futuriste. Elle pense que les trois premiers chapitres concernent soit l'époque, concernent l'époque où ces livres ont été écrits, c'est-à-dire les sept églises, ou soit les sept périodes de l'histoire de l'Église, j'en reviendrai après, entre l'âge apostolique, c'est-à-dire au moment où il y a eu la Pentecôte, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc ça, c'est acquis. Puis ensuite, de là, c'est à partir du chapitre 4 que vont être décrits les événements qui auront lieu pendant la Grande Tribulation, qui aura lieu juste avant le retour de Jésus. Cette école interprète les événements de l'Apocalypse aussi littéralement que possible. Donc on se dit, ah tiens, ben moi, je suis plutôt comme ça. Je suis plutôt dans cette dimension littérale de la Bible. Donc, ça m'intéresse, cette école futuriste. Moi, je serais, vous pouvez le dire, pas forcément prétériste, parce que je pense que ça a une portée quand même prophétique, ce livre. Révélation, hein. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer dans la suite. C'est le mot premier de la définition du mot Apocalypse, c'est révélation. Donc j'en ai déjà deux. La première, en abus, on s'entend où Jean dit son ras-le-bol. La deuxième, il faut que je lise ces 22 chapitres aussi littéralement que possible, c'est-à-dire ce qui est écrit, je crois que c'est ça qui va se passer. Et puis la troisième école, c'est une école historique. Elle dit non, 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 non. Les événements qui sont décrits dans le livre sont simplement des tableaux symbolisant l'histoire de l'Église. C'est tout. Depuis le Nouveau Testament jusqu'à la fin des âges. En fait, c'est Jean qui a la vision de l'Église et puis qui donne, par exemple, au niveau des sept églises, mais aussi de tout le reste de l'Apocalypse, ce que va devenir l'Église. Et puis, ces symboles, avec peut-être le dragon, le serpent, la bête, ben ça peut représenter la chute de l'Empire romain ou bien des invasions de l'islam, où l'Église va être un petit peu agressée, attaquée. Mais finalement, en gros, les Mayas nous avaient donné leur calendrier qui se terminait en 2012. Vous vous souvenez, le 21 décembre 2012, eh bien l'Apocalypse, c'est finalement le calendrier de l'Église écrit à l'avance par Jean pour expliquer tout ce qui va se passer. Et puis on peut se retrouver aujourd'hui dans ce calendrier en fonction des événements qui peuvent se passer. Donc c'est vraiment symbolique. Le problème, c'est que les gens, quand ils ont sont appropriés cette dimension de cette école historique, eh ben ils ont dit tout n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple, la bête qui a sept têtes, 10 couronnes? Qu'est-ce que c'est? Ben, aujourd'hui, je vois, ben, il y a 20 ans, on dit ça, c'est l'Union européenne. Parce que sur l'Union européenne, il y avait un drapeau bleu avec 10 étoiles. Puis ces 10 étoiles représentaient Apocalypse 17 qui montrait que. Donc là, on était vraiment dans. Maintenant, ils sont combien? 25, 27. Alors, c'est presque le drapeau américain, là, maintenant, avec ses 50 étoiles. Hein. Donc, on était très historique en disant, ça colle à ça. Ça, ce que j'ai vu maintenant, c'est joli. Et puis, on se rend compte, avec du recul, qu'on était un petit peu naïf. Et puis, il y a des gens qui y croient toujours. Et puis ceux qui écrivent des livres sur l'interprétation de l'Apocalypse par rapport à des actions qui sont commises aujourd'hui ou qui sont commises dans les temps, dans l'événement actuel, on va dire, ce qu'on lit dans les journaux et ce que je lis dans l'Apocalypse, et qui vont faire des relations avec l'un avec l'autre, eh ben, ils vont écrire tout et n'importe quoi. Et ce problème, c'est que nous, on va croire ça aujourd'hui, puis demain, on va s'en défendre en disant non, non, moi je ne croyais pas ça, c'était juste pour rigoler, parce que tout le monde y croyait, mais moi je n'y croyais pas. Mais finalement, on est tous tombés un petit peu dans le panneau. Et puis on se dit, mais avec le recul, on se rend compte que tout n'est pas si simple, et qu'il ne faut pas interpréter historiquement l'Apocalypse en fonction de ce que je lis dans le journal. C'est un petit peu plus subtil, je pense. Et puis enfin, vous avez une quatrième école. Donc, est-ce que vous êtes plutôt prétériste, plutôt futuriste, plutôt historique? C'est-à-dire, vous pensez plutôt que c'est Jean qui a un petit peu eu ras-le-bol? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt littéral? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt des symboles de l'Église? Puis enfin, vous avez une école de pensée idéaliste. Alors, c'est des mots compliqués aussi. Ben, cette école, elle pense simplement que l'Apocalypse, c'est simplement un tableau symbolique de la lutte entre le bien et le mal. Parce qu'il y a tout le temps le bien, il y a les anges d'un côté, il y a les démons de l'autre, il y a Jésus qui est à côté, il y a l'Antichrist de l'autre côté, il y a la colère de Dieu, il y a les récompenses de l'autre côté. Donc c'est finalement un tableau, une sorte d'histoire symbolique qui explique la lutte entre le bien et le mal, entre le christianisme et le paganisme, où finalement, ben, c'est quand même le christianisme à la fin qui va gagner. Alors elle est très proche de cette école historique où elle cherche un petit peu à regarder les événements qu'il y a dans l'Apocalypse, puis les événements qui se passent aujourd'hui, puis essayer de trouver des relations, des parallèles. Mais elle dit non, 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 je peux pas, finalement, même si j'aimerais bien dire que la bête, c'est l'Union européenne, je m'en défends parce que ça doit rester que symbolique, ça doit rester que spirituel, que de la pensée, ça ne doit rien avoir à faire avec des événements futurs ou passés, c'est juste symbolique. L'Apocalypse ne me propose qu'un idéal de vie en disant, allez Jean-Jacques, continue à croire en Dieu, de toute façon à la fin, c'est Dieu qui gagnera, tant que c'est du tout bon. Et c'est comme ça que je vais lire l'Apocalypse. Alors, vous voyez qu'on arrive vite maintenant à retirer trois écoles pour en garder qu'une. Je ne sais pas laquelle vous allez garder. Enfin, je me doute un petit peu. Mais j'aimerais un petit peu compliquer parce que si vous me dites, ah, mais finalement, ça aussi entre le symbolisme et puis le littéralisme. C'est juste, soit vous lisez la Bible d'une façon symbolique, en tout cas l'Apocalypse, soit vous la lisez d'une façon littérale. Alors là, c'est encore. Alors c'est bien, il n'y a plus que deux écoles. Mais. Je vais encore compliquer la chose parce que vous qui allez lire l'Apocalypse, Vous avez quatre possibilités de lecture, même vous. Et puis il faut savoir un petit peu laquelle on va la lire. Soit je lis la Bible, et puis je dis, eh bien voilà, tout ce que l'Apocalypse me dit, c'est vrai. Je prends au pied de la lettre ce que ce livre me dit. Et quand il est dit qu'il y aura un dragon, il y aura un dragon. Quand il est dit qu'il y aura quatre chevaux de différentes couleurs, il y aura quatre chevaux de différentes couleurs et qui seront présents et qu'on pourra voir. Donc ça, c'est vraiment les littéralistes purs. D'accord ? Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'être. Puis ensuite, il y a la deuxième partie, c'est ceux qui vont lire l'Apocalypse et puis qui vont dire, eh bien, les versets sont essentiellement à prendre d'une façon littérale, puis il y a quelques-uns qu'il faut que je prenne de façon symbolique parce que ça ne peut pas fonctionner si je la prends d'une façon littérale. On n'a jamais vu une bête avec sept têtes, avec c'est pas possible. Donc ça doit être un symbole qui reprend quelque chose. Mais tout le reste, je prends d'une façon littérale. Ça, c'est une deuxième approche. C'est peut-être la vôtre. Si c'est juste, vous avez raison. C'est votre choix. J'ai une troisième approche qui est de dire, ben non, il faut que je lise la Bible, l'Apocalypse, toujours de façon symbolique. Parce que c'est caché, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment ça, puis ça sera toujours symbolique. Donc, les 1000 ans, par exemple, ça sera symbolique. Ce ne sera pas 1000 ans. Et puis là, ben, je vais tout de suite arriver à une école ben, qui va travailler sur les symboles. Je vais avoir une façon de lire la Bible, d'interpréter la Bible qui sera essentiellement sur les symboles. Donc c'est une école. Puis vous avez raison si vous avez envie de savoir ça. Qui suis-je pour vous dire vous avez tort ? Et une quatrième chose, c'est une lecture essentiellement symbolique. C'est-à-dire, c'est beaucoup symbolique, puis il y a un tout petit peu qui sont quand même un petit peu littérales. Par exemple, tout est symbolique, mais en tout cas le millénium, ça sera 1000 ans. Parce que j'ai envie d'être prémillénariste ou dispensationaliste, puis je pense que c'est 1000 ans. Donc ça, je veux le prendre d'une façon vraie, d'une façon rigoureusement littérale, mais tout le reste, c'est plutôt symbolique. Puis c'est pour ça que c'est compliqué quand je lis avec vous l'Apocalypse, parce que finalement, j'ai un parterre de fleurs différentes, qui tout a un parfum différent, et puis c'est ce parfum qu'elles comprennent de l'Apocalypse, parce que soit vous lisez la Bible d'une façon littérale, soit d'une façon symbolique, soit vous êtes plutôt en pensant que c'était un livre qui était écrit pour le ras-le-bol de Jean, ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on arrive plus ou moins maintenant à s'y refaire. Alors, heureusement qu'on a travaillé pour vous, quand je dis on, c'est l'Église du Réveil, parce que là, une confession de foi. Et cette confession de foi, eh bien, elle nous permet d'être rassurés un petit peu. Oh, pas tout. Et cette confession de foi, on la verra après la pause. Suivez-moi dans le raisonnement. Non, c'est pour ça que j'ai donné après, parce que vous... Alors, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Oui ? Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Oui ? Donc, 7 jours égale 7000 ans. Oui ? Oui. Le millénium, c'est 1000 ans, il reste 6000. D'accord ? Comme Jésus-Christ, il est né il y a 2000 ans, 6000 moins 2000, 4000. Puisqu'Ophile a travaillé comme ça, en pensant que le monde a été créé à peu près il y a 4000 ans. Donc vous voyez, travailler au niveau du symbolisme, ça peut parfois paraître intéressant, au niveau de notre chair, au niveau de notre... C'est beau, quoi. Mais finalement, quand on essaie de voir un petit peu les pieds sur terre, on dit, mais attendez, 4000 ans, c'est... Non, c'est pas ça. Alors, ben, pour autant, dans les Scofield, il y a toujours ça dans les Bibles, mais parce que c'était ses annotations. Donc, il se peut très bien qu'il y ait eu des annotations qu'il ait faites. Mais maintenant, dans les nouvelles Bibles, bien, c'est plusieurs théologiens vraiment qui se concentrent ensemble pour que les erreurs des uns puissent être corrigées par les remarques des autres. D'accord ? Vous comprenez ça ? Donc c'était juste pour vous expliquer comment le symbolisme et le littéralisme, en, mélangés ensemble, créent des soucis.
Oui.
Oui. Certes. Prochain courant raciné. Voilà. Alors. Oui. Oui. C'est bon. Bien. Alors, pour aller un petit peu plus vite, donc vous avez devant vous les brochures. J'aimerais que vous l'ouvriez à la page 27, où vous avez toute une page qui va parler des sept églises de l'Apocalypse. Je les ai situées dans l'espace, et puis vous avez ici un petit dessin qui nous montre que toutes ces églises se situent à l'est de la Turquie actuelle. Alors sur le tableau ici, j'avais utilisé ça à l'école du dimanche, c'est un petit peu les différents juifs de la diaspora qui étaient revenus à Jérusalem le jour de la Pentecôte, puis c'était toutes les langues différentes que les juifs, dans lesquelles les juifs entendaient les apôtres parler en langue. Je garde ça parce que j'ai la partie là. Donc les sept églises, ça se trouve ici. Ce qui est communément appelé dans la Bible l'Asie, donc cette partie à l'est de la Turquie qui fait face à la Grèce. Et puis, voyez, ces sept églises, donc, elles sont nommées Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et puis, on a tout dit et n'importe quoi sur ces églises. Alors, je n'ai pas mis tout et n'importe quoi, mais j'ai mis les choses qui étaient les plus communément admises. Donc, il y a pas mal de choses. Et donc, en premier, j'ai mis un résumé de l'Église. Par exemple, Éphèse, c'est une Église rétrograde, persévérante dans le service, forte dans la discipline, mais dans l'amour se refroidit. Et j'ai mis la référence de la lettre. Et puis, on a essayé, enfin certains, ils se sont dit, oui, aujourd'hui, ça correspondrait à quelle sorte d'Église, les Églises d'Éphèse. Ils se sont rendus compte que eh bien, ça correspondrait à une église biblique, mais froide et liturgique. Voilà. Je vais faire l'exercice pour tout le monde, pour que ceux qui nous entendent, et on les salue, puissent avoir aussi l'entièreté du cours. Smyrne est une église pauvre, mais véritablement riche, qui passe par une période de persécution. Elle correspond au type d'église actuelle, vieux jeu, mais vivante. Donc, je ne sais pas si dans votre tête, vous avez des schémas d'église. Ah, mais telle église, c'est peut-être ça. Pergame, une église qui vit dans un environnement pervers, qui persévère tout en se laissant gagner par l'hérésie. Elle correspond au type d'église actuelle, œcuménique et syncrétique. Syncrétique, disant donc qu'on fait le mélange entre différentes religions. Œcuménique, c'est un mélange entre différentes confessions. D'accord ? Thyatire est une église aux œuvres bonnes, mais qui tolère une fausse prophétesse. Elle correspond au type d'église actuelle catholique romaine. Voilà, je pense que la fausse prophétesse doit commencer par main, puis doit finir par rille. Sardes est une église moribonde. Elle correspond au type d'église actuelle protestante. Donc, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, mais c'est simplement ce que j'ai pu retrouver. Philadelphie est une église faible, mais fidèle. Elle correspond au type d'église actuelle évangélique. Laodicée est une église tiède et satisfaite d'elle-même qui se vante de sa richesse tout en étant misérable, pauvre et aveugle. Elle correspond au type d'église actuelle moderniste, c'est-à-dire qui garde l'extérieur de la foi tout en retirant l'essentiel. Vous avez en dessous la localisation des différentes églises. Et puis, dans ce qu'on avait vu dans la façon dont on interprète l'Apocalypse, on avait différentes écoles futuristes et historiques qui vont s'approprier ces églises comme étant des périodes de l'Église elle-même. Donc, c'est-à-dire depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Jésus. Et puis, ils ont même mis des dates. Donc, je l'ai actualisé aussi. Éphèse, c'était l'Église post-apostolique, donc des premiers chrétiens. Smyrne, de 100 à 312, c'est la période des pères de l'Église, qui va se terminer avec Constantin, l'empereur Constantin, qui va étatiser finalement la religion chrétienne. C'est Pergame, de 312 à 616. Constantin, donc cet empereur qui a reçu en vision une croix dans le ciel, et puis qui, une voix lui aurait dit « Par ce signe, tu vaincras », et puis qui s'est converti pour politiquement rester correct, et puis a fait adopter le christianisme comme religion d'État. L'édit de Milan, c'est en fait une loi, un édit qui permettait aux gens de croire ce qu'ils voulaient, en gros, d'accepter la religion chrétienne aussi. Et puis arrive Thyatire avec cette période qui est une grande période, hein, à peu près 900 ans, qui commence avec Mahomet, hein, puisque l'islam va naître en 612 exactement, en 610 à Médine, et puis c'est la controverse d'islam avec les guerres saintes, Godefroy de Bouillon qui part, Richard Cœur de Lion qui part à Jérusalem pour délivrer la ville sainte, qui avait été prise par les Sarrasins, hein, à l'époque. Et puis ensuite, on arrive au XVIe siècle avec la réforme, avec les 95 thèses de Luther qui montrent que l'Église catholique s'était un petit peu perdue dans sa foi. Et puis, on arrive à la moitié du XVIIIe siècle avec Philadelphie, où il y a eu des réveils religieux. Puis effectivement, quand on lit Philadelphie, voilà, c'est une église fidèle qui est faible, et puis il y a des réveils religieux. Et puis à partir de l'Odyssée de 1900 jusqu'à 2017, donc c'est actualisé, vous avez vu, hein, c'est la haute critique, c'est-à-dire que les théologiens, beaucoup de théologiens, cherchent à saper la foi que l'on a et puis à montrer finalement que il faut pas être aussi marginal que les évangéliques, pas aussi puritain que les évangélistes, pas aussi doctrinaux que les évangéliques, pas aussi fondamentaliste que les évangéliques, et puis nous mettre un petit peu de côté. Et puis la haute critique cherche aussi un petit peu à démonter l'autorité de la Bible. On en est là. Donc voilà. Donc c'est juste pour expliquer un petit peu que ces sept églises étaient là. Maintenant, c'est à vous de faire la lumière. Alors, on est à la page 28. Alors, je cite le contexte quand il faut faire la lumière. Vous avez une église qui est plongée dans le noir, avec des gens où on voit que leurs yeux, et puis ses yeux sont épouvantés, et puis une parole, un prophète qui parle, ou une prophétesse qui dit « Le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel. » C'était un passage d'Ésaïe. Et puis le sacristain dit « c'est bon, c'est un fusible. » Alors, donc on va essayer un petit peu de faire la lumière maintenant sur votre façon de voir. Et puis peut-être, alors, mettez une croix sur vos convictions personnelles du moment. Ça veut dire que ça peut changer. Alors, essayez si vous avez un petit crayon. Au niveau de la tribulation, est-ce que vous êtes plutôt pré-, mi- ou post-tribulationniste ? Vous mettez votre petite croix. Au niveau du millénium, si vous êtes pré-millénariste, post-millénariste, amillénariste, dispensationaliste. Ensuite, pour l'interprétation des Écritures, si vous êtes plutôt de l'écrit prétériste, futuriste, historique ou idéaliste, et vous avez ceci aux pages précédentes, et puis la lecture de l'Apocalypse, si vous êtes avec une lecture toujours littérale, ou bien plutôt symbolique, ou toujours symbolique. Puis ça vous permet de situer quelque part votre foi, de dire, ben là, aujourd'hui j'en suis là, tout en sachant qu'il n'y a pas une eschatologie, une seule eschatologie, mais plusieurs hypothèses eschatologiques, et puis qu'on ne peut pas dire que l'une soit faux par rapport à l'autre, mais simplement on essaye un petit peu de cheminer en utilisant les clés qui nous semblent être les plus judicieuses pour pouvoir ouvrir la lecture de ce livre de l'Apocalypse. Voilà. Alors, on arrive maintenant, on va voir si vous êtes en phase avec ce que notre Église dit. Puisque la confession de foi de l'Église du Réveil d'Yverdon concernant le retour de Jésus-Christ dit ceci, et là je l'ai directement pris du site internet de l'Église pour voir en quoi nous croyons, pour qu'on puisse aussi regarder sur ce site toutes les richesses qui s'y trouvent. Nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ, à l'enlèvement de son Église et à son règne sur la terre. Nous croyons que tous les morts ressusciteront, tant les justes que les injustes en vue du jugement, les justes pour jouir de la vie éternelle et les injustes pour être condamnés à une séparation éternelle d'avec Dieu. Et suite à cette confession de foi, eh bien, il est donné un certain nombre de versets dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, que je vais lire avec vous. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défausserons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Voilà ce que notre confession de foi donne comme verset biblique pour confirmer un petit peu ce qui est dit plus haut. Alors regardons ce qui est dit plus haut. Ce qui est dit plus haut, c'est « Nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ ». Donc c'est bien ça. Hein, je pense que vous êtes tous en train de souscrire à cette première phrase, à l'enlèvement de son Église. Et vous remarquerez que dans la confession de foi, on ne va pas dire avant la tribulation, après la tribulation, ou au milieu de la tribulation, on va simplement dire à l'enlèvement de son Église. Ça veut dire qu'on vous laisse le choix. C'est des fois bien, hein, pas toujours, de penser ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc vous ne serez pas exclu de l'Église si vous êtes pré-tribulationniste, si vous êtes mi ou si vous êtes post, mais simplement, il y a la place dans l'Église pour avoir ce genre d'interprétation, et c'est une bonne chose. Encore une fois, l'eschatologie est une doctrine à part. Quand on va parler de la foi, quand on va parler du salut, eh bien là, il n'y a pas d'autre doctrine, il n'y a pas de choix. Hein, Jésus-Christ est le seul chemin. Il y a vraiment une réalité qui fait qu'au niveau de notre salut, on ne peut pas dire « oui, mais tous les chemins mènent à Rome ». L'eschatologie, c'est la seule doctrine qui est un petit peu remplie d'hypothèses que l'on peut croire ou pas. Et toutes les autres, non, mais celle-ci, oui. Et là, on laisse le choix. « À son règne sur la terre ». Donc, même si le mot n'est pas donné, on va considérer que notre Église croit au règne de Jésus sur la terre, c'est-à-dire au millénium. Donc, en lisant entre les lignes, l'Église est au moins prémillénariste. Ouf. Donc, elle n'est pas amillénariste. Elle n'est pas post-millénariste, mais elle est peut-être aussi dispensationaliste. Mais on ne le met pas. Parce que le dispensationalisme fait partie des prémillénaristes, donc on est au moins prémillénariste. Donc on a le choix d'être dispensationaliste ou non. Donc là, on est de plus en plus clair. Et puis, quelque part, notre lecture de l'Apocalypse, elle est soit littéral, puisqu'on va parler de mille ans comme étant mille ans, soit plutôt littéral. Donc, on va déjà, en tant qu'évangélique, se définir comme étant, comme lisant l'Apocalypse avec les trois premiers chapitres comme étant des églises historiques, au minimum, chapitres 4 à 19, comme étant le temps de la tribulation, de la grande tribulation, et puis chapitre 20 à 22 comme étant le temps du millénium. Donc là, on est plus du tout symbolique. Donc l'école symbolique, bon voilà, l'historique aussi, on va l'abandonner. Donc on commence un petit peu à se mettre en place une structure. Et puis cette structure, elle est confirmée un petit peu par notre déclaration de foi. Donc voilà, donc, nous croyons à la seconde venue de Jésus-Christ, à l'enlèvement de son Église et à son règne sur la terre. Donc, on a compris ce que ça voulait dire. Nous croyons que tous les morts ressusciteront. Donc on n'est pas dans cette doctrine de l'aïlisme. Souvenez-vous, la première fois, je vous ai parlé que ceux qui ne sont pas morts en Christ vont être détruits simplement par Dieu. On n'est pas dans cette dimension non plus de l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde sera sauvé puisque Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas accepter qu'un seul homme qu'il a créé parte en enfer. Tant les justes que les injustes, donc on voit ici qu'il y a une différence, en vue du jugement, donc il faut qu'il y ait une dimension de conversion, les justes pour jouir de la vie éternelle et les justes pour être condamnés à une séparation éternelle avec Dieu. Et là, on voit cette dimension où il y aura des lieux différents, ce que la Bible appelle, mais on ne le sait pas toujours, l'état de grâce ou l'état éternel qui est un lieu après, le dernier lieu. Et puis, l'enfer, on va poser ça, ou en tout cas l'étang de feu, où, comme vous l'avez lu pour aujourd'hui, seront jetés la mort et le séjour des morts, le diable, l'antichrist et toutes leurs armées. Donc, on voit ici maintenant qu'on comprend, en quelques mots, qu'il y a toute une théologie qui est derrière, et puis qui est simplement écrite en quelques lignes. Alors, on va maintenant essayer un petit peu d'être ébranlé, encore une fois. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, je vous disais qu'il y avait plein de gens farfelus qui essayaient de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur l'Apocalypse. J'ai essayé de faire la même chose. Et alors là, je vais peut-être demander de fermer vos livres, comme ça vous êtes plus avec moi. Et j'ai essayé de considérer ces derniers chapitres de l'Apocalypse avec les derniers chapitres d'Ézéchiel. J'ai enseigné le livre d'Ézéchiel dans une école biblique au Togo, à Lausanne aussi. Et puis j'ai vraiment été étonné de ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire les deux derniers chapitres d'Ézéchiel. Si je vous avais demandé 40 à 48, vous auriez dit non. Donc j'ai juste demandé les deux derniers, mais finalement, les chapitres 40 à 48, c'est la reconstruction du temple. Une vision que Dieu donne à Ézéchiel pour reconstruire le temple. Et on a lu les versets, les chapitres 20, 21, 22, 20 étant le jugement dernier avec le millénium, puis 21, 22, surtout le 21, étant la nouvelle Jérusalem. Dans les chansons que nous chantons à nos enfants aux écoles du dimanche ou chez nous, on chante un chant « Elle est au ciel, cette maison », vous connaissez, etc. Et puis, donc, on reprend Apocalypse 22 en disant « les rues sont en or, et quand on sera au ciel, ce sera extraordinaire. Vous rendez compte, les rues seront en or, les portes seront des perles, il y aura un parquet de cristal, ce sera impressionnant, et tout ça. Il y aura plus de temple, parce que c'est Jésus qui est le temple, etc. » Et on se rend compte, on croit, que, en tout cas on pense, que cette description d'Apocalypse 21 correspond à l'état final de notre présence avec Dieu. Et on a à peu près le même schéma dans les trois premiers chapitres de la Bible, donc de Genèse, et les trois derniers. C'est-à-dire qu'il y a, dans les trois premiers chapitres de la Genèse, il y a deux fois la création de l'homme. Il les crée homme et femme, puis après il reprend. Et puis dans le trois derniers chapitres de l'Apocalypse, il y a aussi deux fois la venue de Jésus. Et puis on est un petit peu embêté avec le chapitre 21, le verset premier, qu'on va lire ensemble d'ailleurs. Et Apocalypse 21, verset 1er, dit ces merveilleuses paroles qui disent ceci: « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et je me rends compte que c'est comme si ça voulait dire, ben finalement, le monde a disparu. Et ce qui va venir après, ça sera le paradis céleste, finalement, le dernier lieu dans lequel on va passer notre éternité avec Dieu. Alors, j'ai lu et relu, alors je sais pas, je pense pas que ce soit farfelu, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un regard un peu méta, pas métamorphose, mais méta, c'est-à-dire un petit peu en-dessus, pour voir les chapitres 47 et 48 d'Ézéchiel, et puis les chapitres, surtout 21 et 22, de l'Apocalypse. Alors, imaginez que la nouvelle Jérusalem ne soit pas notre destination finale, mais ce soit finalement le temple de Dieu qui descend du ciel sur la terre, sur Jérusalem. Imaginez que le chapitre 21 d'Apocalypse ne soit pas le paradis, mais ce soit simplement le lieu politique sur lequel Jésus va régner sur la terre. Souvenez-vous que quand Dieu a donné à Moïse l'ordre de construire le tabernacle, Moïse a construit ce tabernacle d'après le modèle qui était dans le ciel. Vous vous souvenez de ce verset? Oui. Quand Dieu a montré à David quelles devaient être les dimensions du temple, eh bien, David a reçu les instructions de Dieu d'après un temple qui se trouvait dans les cieux aussi. Et que finalement, le modèle du temple, c'est dans les cieux qu'il se trouve. Et imaginez maintenant que ce modèle descende du ciel au moment du retour de Jésus pour venir s'établir sur la terre. On est tout le temps dans l'imagination. Alors maintenant, on va lire, on va faire abstraction du premier verset d'Apocalypse 21. Puis on va lire ensemble quelques versets que je vais vous demander de regarder sur votre Bible. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 9. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. 23, la ville n'a pas besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. 24, les nations marcheront à sa suite et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et enfin le 26, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Puis le chapitre 22, le verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors, on va essayer de réfléchir maintenant en disant, finalement, si c'était la nouvelle Jérusalem qui descendait. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem? Alors, verset 15 du chapitre 21, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. 12 000 stades, est-ce que dans votre Bible, c'est écrit ce que ça fait en kilomètres. Pardon ? Non. 2 000 kilomètres, 12 000 stades. Alors j'ai pris ici la carte de géographie que j'avais justement fait avec les enfants pour vous montrer ici un petit peu les Juifs qui allaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ils venaient, donc le premier cercle c'est 500 km, deuxième c'est 1000 km, puis le troisième c'était 1500 km. Les Juifs qui étaient chez les Élamites faisaient par exemple 1500 km pour arriver à Jérusalem. Bien. Maintenant, je vais prendre sur cette échelle de 1000 km les mesures de cette ville de 2000 km de côté. Là, il y a 2000 km de côté. Donc ça, c'est la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descend du ciel. Je la place où à Jérusalem ? C'est impressionnant, hein ? Est-ce que je suis un chrétien littéral ? Ou est-ce que je crois que la Bible, le livre de l'Apocalypse, je dois le prendre d'une façon littérale, puis un petit peu d'une façon symbolique ? Vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que ça va se poser sur la mer Méditerranée ? Et il n'y aura plus de mer ? Je peux comprendre Apocalypse 22, 1, il n'y aura plus de mer, voilà, pouf. Est-ce que je vais le mettre au plein milieu de Jérusalem? Oui, c'est énorme. 2000 km de long, 12 000 stades. Je le mets là pour que vous puissiez un petit peu voir. Donc, et puis quelque part, 2000 km de long pour tous les gens qui seront sauvés. Même si c'est long, 2000 km, c'est pas beaucoup. On est aussi d'accord. Alors, relisons un petit peu ces versets. Moi, je suis persuadé que la Nouvelle Jérusalem est une ville qui descend du ciel et qui vient se poser sur Jérusalem. Et puis Jésus va venir avec cette ville pour y régner pendant 1000 ans. Maintenant, on va relire quelques versets. Ces versets que je vous ai lus, il est dit au verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » C'est comme si c'est ce temple céleste qui descend, ce tabernacle. Et c'est Dieu qui descend parmi les hommes, et non pas les hommes qui vont vers Dieu. Parce que si c'était pour l'état final, ce serait les hommes qui monteraient vers Dieu. Tandis que là, c'est Dieu qui descend pour habiter, pour tabernacler, le dirait le terme grec, parmi les hommes. Puis ensuite, au verset 9, il est dit qu'il y avait encore un ange avec des fléaux. Et puis cet ange va parler à Jean. Est-ce que vous pensez que dans le paradis céleste, il y aura un ange avec des fléaux? Franchement, ben moi je crois pas. Parce que tout sera grâce et il n'y aura plus besoin de fléaux. Il n'y aura plus besoin de fléaux. Puisque d'un côté les gens ils seront dans les temps de feu, puis d'autre côté tout le temps avec Dieu. Il n'y aura plus besoin de cet ange qui a ses coupes avec ses fléaux. Enfin, il est dit que la ville sainte descend du ciel. Donc c'est absolument l'inverse de ce que nous on imaginait. C'est la ville qui descend sur la terre. Donc on est vraiment sur la terre. En troisième lieu, il est parlé des nations. Il est dit les nations marcheront à sa suite et apporteront leur gloire. Est-ce que vous pensez que dans la mesure où Dieu va faire que tous les êtres humains sauvés deviennent un seul peuple, puisque c'est son but, est-ce qu'il y aura encore la notion de nation terrestre au ciel? Non. Les... Oui. Donc sur la terre, ça a une raison d'être, ces nations. Au ciel, ça n'a plus de raison d'être. Donc on est bien sur la terre. Puis enfin, il est dit L'arbre de vie sert à la guérison des nations. Franchement, est-ce que dans le paradis céleste, on a encore besoin d'être guéri? Est-ce que les nations ont besoin d'être guéries? Et je me rends compte que la réponse est non. Au paradis céleste, tout sera félicité, il n'y aura plus de problèmes, plus de larmes, plus rien, quoi. Donc, quelque part, ce chapitre 21, ce n'est pas le paradis. Ce chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem dans lequel le temple de Dieu descend. Alors, pour cela, je vais vous, pas le prouver parce que ce ne sera pas au mot de prouver, mais je vais vous montrer ma perplexité en faisant des parallèles entre le livre d'Ézéchiel, auquel je pense pour la plupart c'est un petit peu du chinois, et puis le livre de l'Apocalypse. Alors, j'aimerais qu'on mette un doigt sur Ézéchiel, puis un doigt sur l'Apocalypse, et puis qu'on regarde Ézéchiel, alors 40 déjà, et Ézéchiel 40, c'est une petite gymnastique du matin là. Ézéchiel 40, moi j'ai un grand titre qui est « Vision du temple et du pays restauré ». Donc, je vous explique un petit peu le contexte. J'ai pas mal travaillé là-dessus, vraiment. Et puis, Ézéchiel se trouve à Babylone, en déportation. Les Juifs ont profané le temple, il a été détruit. Et puis, tout le monde se lamente. Et puis, Ézéchiel, qui est un des prophètes qui est resté fidèle à l'Éternel, est utilisé par Dieu pour travailler en tant que prophète à Babylone, auprès du peuple juif. Et puis, à un moment donné, Dieu, à la fin de la vie d'Ézéchiel, va l'encourager et va lui montrer la vision d'un temple. Or, les prophéties, les visions que Dieu donne, elles ne sont pas toujours définies dans le temps. Elles ont parfois, on appelle ça des ricochets théologiques, des ricochets prophétiques. C'est-à-dire que ça a une incidence dans le temps, mais c'en est encore après. Je donne par exemple le message de Pierre à la Pentecôte qui dira... Il va s'approprier les paroles du prophète Joël en disant « Dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. » Et puis il va dire « Ben voilà, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Mais elle s'accomplit encore aujourd'hui, maintenant, en 2017. Ça veut dire que c'est comme si une prophétie qui a fait ricochet, comme premier ricochet, c'était à la Pentecôte, et puis que Elle a ricoché souvent, et puis particulièrement le XXe siècle était un siècle où le Saint-Esprit a retrouvé, je dirais, ses lettres de noblesse dans le cadre de l'Église, et puis le XXIe siècle aussi. Donc c'est une prophétie qui fait ricochet. Et bien celle d'Ézéchiel va aussi faire ricochet, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir une vision de la reconstruction du Temple, mais ça ne sera pas les mêmes mesures, ça sera différent. Il va parler d'un temple où il y aura de l'eau qui va couler de l'intérieur du temple. Et il n'y a pas d'eau qui sort du temple de Salomon. Et on pourrait dire, oh, mais ils sont trompés, ou bien c'est les commentateurs qui ont mal lu, ou bien les copistes qui ont mal copié. Mais quelque part, c'est une première vision un petit peu floue que Ézéchiel a de la reconstruction du temple qu'on appelle le temple de Zorobabel. Le temple de Zorobabel, c'est le temple que Esdras a construit et que Hérode va agrandir. C'est du temps quand Esdras rentre de la déportation. Vous vous souvenez de cette époque? Et puis après, Néhémie aussi va reconstruire les murailles, mais Esdras le temple. Et puis ce temple-là, on appelle aussi le temple de Zorobabel. Et il a une vision de ce temple, mais ce ne sera pas la vraie vision. Il a de nouveau les plans, parce que les plans étaient perdus, tout était perdu, mais il a de nouveaux plans, mais ce n'est pas les plans de l'autre. Ce n'est pas les plans du temple de Salomon, puis ça ne sera pas non plus les temples, les plans du temple de Zorobabel. Ça sera un temple différent, proche de l'autre, mais différent. Puis on se rend compte que c'est une vision qui est un petit peu une prophétie par ricochet, parce qu'en premier lieu, il y aura la reconstruction du temple, puis en deuxième lieu, il voit le retour de Jésus avec ce vrai troisième temple qui descend du ciel et que nous on appelle la Nouvelle Jérusalem. Puis je vais vous montrer les analogies entre Ézéchiel et puis l'Apocalypse et vous allez dire « Ah ouais, ah ben je suis étonné, ah maintenant je comprends mieux » et puis vous aurez envie cette fois-ci, non plus parce que je vous ai demandé, mais envie de lire à Ézéchiel à partir du chapitre 40 jusqu'au 48 pour voir toute la richesse de ces temps eschatologiques. Alors, Ézéchiel 40, le verset 2. Dans des visions divines, il me conduisit dans le pays d'Israël et me déposa sur une montagne très élevée. Je lis maintenant Apocalypse 21, verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc on voit déjà qu'il y a une petite analogie là. Ensuite, Ézéchiel, alors maintenant cette fois-ci, 37, verset 27. Où il y a un geste prophétique de la part d'Ézéchiel, et puis Dieu dit ceci, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Si je prends en Apocalypse 21, verset 3, il est dit, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle avec les hommes, ils habiteront avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Quelque part, on voit les deux choses, que cette cité sainte, c'est Dieu qui se trouve au milieu des hommes, dans les deux cas. Maintenant, quel est le nom de cette ville? Alors on va tourner à Ézéchiel 48, tout à la fin, où il est dit ici, au verset 35, c'est le dernier chapitre, le dernier verset du livre d'Ézéchiel, circuit 18 000 coudées, et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Si je regarde cette fois-ci de nouveau le même verset de 3 d'Apocalypse 21, j'entendis du trône une voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, lui-même sera avec eux ». Donc c'est vraiment cette volonté que Dieu vienne habiter physiquement avec son peuple. Ézéchiel 43, du verset 2 au verset 5, « Et voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Est, sa voix était pareille au bruit des grosses eaux, et la terre resplendit de sa gloire. La vision que j'avais était semblable à la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais la face contre terre. La gloire de l'Éternel s'avançait vers la maison par le porche dont la façade était à l'est. Alors l'Esprit m'enleva et me conduisit dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » Donc on voit, et c'est toujours une réalité, que dans les temples où Dieu vient habiter parmi nous, la gloire de l'Éternel vient. On avait le tabernacle, on a maintenant le premier temple de Salomon, puis on a de nouveau ce temple-là. Si je regarde ici en Apocalypse 21, verset 11, il est dit, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. On retrouve cette gloire qui était là. Maintenant, au niveau de sa forme, le verset 48 que vous avez lu, le verset 16 nous dit ceci. Et voici les mesures du côté nord, 4500 coudées du côté du midi, 4500 du côté est, 4500 du côté ouest, 4500. C'est pas très compliqué. Quand tous les côtés d'une forme ont le même les quatre mêmes côtés, c'est soit en carré, soit en losange. Donc, regardons le verset 30, qui dit ceci. Voici les issues de la vie du côté nord qui mesure 40 000 coudées. Ben, de nouveau, la même chose. Donc, on peut considérer que c'est soit un recte, soit un losange, soit un carré. Et puis, au verset 16 de Apocalypse 21, il est dit ceci. La ville avait la forme d'un carré. Donc, on n'est plus maintenant dans une dimension de temps, parce qu'on est bien clair que le temple de Salomon n'était pas carré. Il était deux fois plus long que large. Et puis, même l'esplanade sur laquelle reposait le temple n'était pas carré. Il n'y a rien de carré dans le temple de Salomon. Rien du tout. C'est vraiment, on est en train de parler ici d'une ville céleste qui descend du ciel et qui s'appelle Nouvelle Jérusalem. Et puis, on retrouve en Ésaïe 48, et vous avez certainement fait l'analogie, verset 30, il est parlé des portes qui avaient, de la ville qui avait 12 portes, 3 de chaque côté. C'est ce qu'on trouve dans Ézéchiel 48. Les portes de la ville avec les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes à l'est, 3 portes à l'ouest. Donc ça c'était Ésaïe 48, versets 30 à 34. Et si je regarde Apocalypse 21, de nouveau au verset 12, je lis ceci. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur 12 portes, 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Je trouve ça intéressant de voir que cette vision qu'Ézéchiel avait, c'est exactement la même vision que Jean a. C'est le même lieu, je ne veux pas dire le même bâtiment, parce que c'est plus qu'un bâtiment, c'est la même réalité, c'est cette nouvelle Jérusalem, ce temple qui descend du ciel, cette maison sainte. Et puis, il y a des choses qui sont aussi intéressantes. On retrouvait en Genèse 1, 2, 3, l'arbre de vie, et il va disparaître dans toute la durée du monde. Et puis, on le retrouve à deux endroits. On le retrouve en Apocalypse. Et en Apocalypse, on le retrouve au verset 20, premier du verset 22. Il me montra le fleuve d'eau de la ville limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et voilà, le verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Et on a dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de la Genèse les deux seules références dans la Bible de cet arbre de vie. Sauf en Ézéchiel 47, et Ézéchiel 47 nous dit ceci. Le verset premier, oups, je crois que je me suis trompé de verset, 47, je sais que c'est le verset 47, verset 12, oui, ça sera pour la deuxième partie, l'arbre de vie qui a des feuilles qui sert à la guérison des nations. Leur feuillage ne se flétrira pas et leur fruit ne s'épuisera pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Puis si je regarde en Apocalypse 22, 2, il est dit, au milieu de la place donc se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois, les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Et je trouve assez intéressant cette analogie entre Apocalypse 20, 21, 22 et puis Ézéchiel, on va dire 40 à 48, où finalement c'est la même réalité. Or moi je pense que quand Jésus-Christ va redescendre avec ses saints lors du retour de Jésus, il y aura pas simplement des êtres humains, il y aura aussi une ville qui va descendre aussi. Et cette ville, c'est ce que l'on trouve dans Apocalypse 21, où il est dit « Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendue du ciel pour venir habiter parmi les hommes. » Alors, et je trouve que c'est assez intéressant de considérer que, en relisant maintenant Apocalypse 21, eh bien, on va y découvrir finalement le lieu où on va habiter, ou en tout cas où Jésus va résider sur la terre durant ces 1000 années. Et c'est peut-être quelque chose de tout nouveau pour vous. Le vrai paradis, ça vient après. C'est quand le millénium, avec cette nouvelle Jérusalem qui sera là, où tout va disparaître, eh bien, il y aura un nouvel état, un nouveau lieu, que la Bible ne nomme pas avec du détail, mais elle dit simplement l'état de grâce ou l'état éternel, qui est finalement tout le temps avec Dieu. Et donc on sera que pour un temps dans ce temps de 1000 ans, après le jugement viendra, puis après on ira avec Dieu dans cet état éternel. Alors, ça peut vous paraître un petit peu tiré par les cheveux ou pas du tout, mais moi je trouve que des fois, quand on lit la Bible, on en lit avec des lunettes qui ne sont pas toujours les lunettes du passé, puis on a appris ceci, et puis on les lit comme si c'était l'état éternel qu'on lisait dans Apocalypse 21 et 22, mais en fait, je ne vais pas dire ce n'est que, c'est super, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la vision du temple que Ézéchiel a eue. Alors, on va essayer maintenant, on va reprendre la page 30, puis on va essayer, puis si tu pouvais mettre, Béate, le transparent pour qu'on puisse voir un petit peu où on en est. On va essayer de synthétiser tout ça et puis de le schématiser visuellement pour avoir une bonne idée de la façon dont la fin du monde va se terminer. Alors, pardon. Donc, vous avez ici un petit texte où j'ai écrit « Essai chronologique de la fin des temps ». Alors je le répète, il n'y a pas une eschatologie, il y a plusieurs hypothèses eschatologiques, et la chronologie que vous allez voir, elle n'est pas toujours acceptée par les chrétiens, ça dépend tout quelle est leur position, hein, s'ils sont amillénaristes, postmillénaristes ou prémillénaristes, c'est différent. Mais celle-ci, elle est communément acceptée par les églises pentecôtisantes de Suisse romande. Donc, si vous voulez reposer votre foi sur ce schéma, vous pouvez. Il est tout à fait en relation avec notre confession de foi. Alors, on va peut-être mettre les numéros dans les trous. Le premier ici, donc ce qui est en noir ici, c'est Jésus, qui reviendra par la suite. Donc Jésus va mourir, il va descendre dans le séjour des morts, il va ressusciter, il va vivre 40 jours avec ses disciples, puis après il va être enlevé au ciel, et ceci on appelle l'ascension. Donc ça sera le numéro 1. Jusqu'à présent tout le monde est d'accord. Ici, merci. Ici, le numéro 1. 10 jours après, c'est la Pentecôte, où le Saint-Esprit descend ici, et puis ce point ici, c'est la Pentecôte. Et ça sera la naissance de l'Église, le jour de cette première Pentecôte. Tout le monde est d'accord toujours ? C'est bien. Quelques temps après cette première Pentecôte, donc on va situer en 33, donc 37 ans après, il y aura Titus qui va venir sur la terre, sur Jérusalem, et puis détruire, et puis disperser ici Israël. Et puis à partir de ce moment-là, 70 ans après Jésus-Christ, Israël n'aura plus de nation, elle sera un pays errant sur la terre,
on appelle ça la diaspora ou la dispersion. C'est vraiment tous les juifs qui sont dispersés dans les différents pays du monde. Le point suivant, eh ben, c'est toute cette distance-là, parallèle ici, qui est l'Église, c'est le point numéro 4, qui a commencé le jour de la Pentecôte et puis qui s'achèvera à l'enlèvement. Tout le monde est toujours d'accord là ? Donc c'est ce que vous croyez déjà avant de venir, donc vous voyez, je ne fais que vous conforter maintenant dans ce que vous savez. C'est quatre, ça c'est l'Église. Tout ça c'est quatre ici, ça c'est l'Église. Bien. Après, on va continuer ici, numéro 5, le retour d'Israël sur ses terres. Donc c'est dans le temps de l'Église, on n'est pas encore à la fin du monde. Et quand ils sont revenus sur leur terre, il y a eu 1,5 million de Juifs qui sont arrivés en 1948, de 1948 à 1951. Il y a eu 1,5 million de Juifs qui sont revenus sur la terre d'Israël. Actuellement, les Juifs, ils sont 12,5 millions dans le monde entier. Vous avez 6,7 millions de Juifs qui habitent Israël, c'est-à-dire le 75% de la population. Le reste, c'est des musulmans, des chrétiens et autres. Oui, il y a 8,5 millions d'habitants en Israël, et il y a le 75% qui sont des juifs. Donc 25% qui sont non-juifs. Pour un petit peu savoir comment ça fonctionne, pour comprendre aussi la politique extérieure, sachez que les trois pays qui comportent le plus de juifs, parce que s'il y en a 12,5 millions, puis il y en a 7 millions en Israël, il y a quand même un petit peu qui sont ailleurs. Eh bien, il y a un petit peu plus de 5 millions qui sont aux États-Unis. Donc, c'est presque une petite moitié de tous les Juifs qui sont aux États-Unis. Et il y a une énorme population. Je crois qu'il y a 2% de Juifs aux États-Unis, c'est-à-dire un Américain sur 50 est juif. Donc vous voyez le poids des juifs aux États-Unis. Ensuite, vous en avez à peu près le deuxième pays où il y a le plus de juifs, c'est la France. Et puis le troisième pays où il y a le plus de juifs, c'est le Canada. Donc, et puis c'est trois pays plus Israël. Forme le 97% des juifs dans le monde. Donc il n'y avait que 1 million. Et puis actuellement, on se rend compte que d'ici 5 ans, eh bien, les juifs auront retrouvé la population qu'ils avaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a tout un effort de repeupler le monde. Donc on est là ici, et ça c'est le retour d'Israël sur ses terres dès 1948, dans tous les cas. Et puis là, ce petit point ici, là, ce petit point-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est les 7 signes du retour de Jésus. Pas 6, pas 5, comme je vous ai dit la dernière fois, mais il faut vraiment que tous les signes soient là pour vraiment montrer que Jésus va revenir. Et puis, ben, ces 7 signes, ben, vous avez l'évangélisation du monde, vous avez l'apostasie, et l'apostasie c'est aussi le début de l'Antichrist, vous avez des famines, des bruits de guerre, des tremblements de terre et autres tribulations. Et puis ensuite, ce point-là, alors on voit bien ici la différence, c'est que Jésus, il vient pas sur la terre, mais il vient dans les airs, puis il vient reprendre l'Église qui est enlevée, puis ensemble, il remonte dans les lieux célestes. Et ce premier point, on va parler de l'enlèvement, qui est ici, l'enlèvement. Donc ça, c'est l'enlèvement, tout ça. Et puis l'enlèvement, c'est le point numéro 7. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Et puis, sur la terre, ici, eh bien, il y a ce qu'on appelle la tribulation ou la grande tribulation. C'est le point 8, qui est plus ou moins longue D'accord? Selon notre théologie, soit on est pré-tribulationniste, soit on est mi-tribulationniste, soit on est post-tribulationniste. Et de toute façon, ce temps qu'il y a ici, c'est un temps où va régner l'Antichrist. Et c'est le passage, donc, on comprend bien maintenant, d'Apocalypse 4 à 19, des chapitres 4 à 19, qui définissent ce temps. Ici. Pendant ce temps, dans le ciel, eh bien, là, on a déjà l'enlèvement. Ensuite, en point suivant, on a les noces de l'agneau, c'est-à-dire le 9, suivi du tribunal de Christ pour les chrétiens avec leur récompense. Et puis, de nouveau, selon l'hypothèse eschatologique, très rapidement ou 7 ans après, eh bien, ce point ici, Jésus reviendra sur la terre. Et ceci, c'est juste le mont des Oliviers, pour qu'on puisse... qui va certainement être écrasé. Oui. Oui, mais il faut que physiquement, Jésus pose quand même les pieds sur la montagne des Oliviers. Donc, ça veut dire que peut-être la Nouvelle Jérusalem, elle va venir quelque temps après. D'abord, Jésus va venir, puis après... La Nouvelle Jérusalem viendra. Je n'ai pas tout bien lu le script, mais... donc, dès que Jésus est de retour sur la terre, donc on voit ici donc, Jésus qui est en noir. Ici, eh bien, ça, c'est Israël aussi qui va être utilisé par Jésus pour... restaurer la planète entière qui sera complètement détruite suite à la tribulation et puis qui auront une nouvelle dispensation, hein, on va le dire ça, pour pouvoir aider aussi le reste des habitants à rencontrer Dieu. Et puis, la particularité, c'est que ici, Satan va être lié et mis dans un lieu d'attente, dans un lieu de tourment, on va dire en enfer, pour l'empêcher de séduire et de tromper les hommes, pour que les hommes, encore une fois, puissent avoir la possibilité de pouvoir, de leur plein gré, suivre Jésus-Christ. Alors, ça ne sera plus une dimension avec la loi, puisque la loi, c'était la cinquième dispensation. Ce n'est plus, pour ceux qui sont dispensationalistes, ce n'est plus avec le salut en Jésus-Christ, puisque c'était la sixième dispensation, la septième dispensation qui est le millénium, ça sera d'autres paramètres pour rencontrer Dieu, Jésus. Comme il sera physiquement, on ne sait pas vraiment, la Bible n'est pas explicite pour dire comment les gens vont se convertir, comment les gens vont s'approcher de Dieu, mais on sait qu'ils pourront le faire, puis on sait qu'ils pourront le faire sans Satan, puisque Satan, il sera lié pour une période de 1000 années. Et puis 1000 années, ça correspond au règne de 1000 ans. Donc c'est-à-dire pendant ces 1000 années, ben, Satan sera lié et empêché d'agir contre les hommes. Et puis ce point ici, c'est le millénium. Et le millénium, c'est le point numéro 13. Et puis à la fin des 1000 ans, eh bien Satan va être relâché. Pourquoi? Ne me le demandez pas. Et puis, ça sera sa dernière guerre contre l'homme et contre Dieu, parce qu'il va essayer de déstabiliser Jésus dans sa royauté, d'attirer les hommes à lui, et puis il va y arriver pour certains hommes. Et puis, à un moment donné, quand il aura, pendant un peu de temps, sévi sur la terre, il sera, pour l'éternité, mis de nouveau dans les temps de feu, à jamais. Et ça, c'est le point 15. Ici, vous avez ce rouleau qui symbolise le jugement dernier, qui est la deuxième résurrection où tout le monde va ressusciter. Et puis, soit, eh bien, pour les justes, vous allez aller dans ceci qui donc n'est plus maintenant Apocalypse 21, mais qui est l'état de grâce, ou l'état éternel, ou la grâce éternelle, pour ceux qui auront, et puis tous les autres, à partir du jugement, vont descendre rejoindre malheureusement Satan, l'Antichrist et tous les démons et les anges déchus. Ça vous correspond? Ça vous réconcilie? Alors, si on a cette vision des choses, on est obligé d'être prémillénariste, donc de croire ici à cette partie. On est obligé de croire à l'enlèvement aussi. On est obligé de croire ici à ce jugement dernier avec la possibilité qu'il y ait des gens qui seront sauvés puis d'autres qui ne le seront pas. Et puis, dans la partie ici, dans la tribulation, ben, si j'y crois pas, si je suis amillénariste, ben, il n'y aura pas de tribulation. C'est tout simple. Parce que aussi je considère l'Apocalypse comme étant symbolique uniquement, eh bien il n'y aura pas de tribulation puisque ce sont que des symboles qui expliquent peut-être la vie de l'Église ou bien des choses politiques qui se passent aujourd'hui. Donc on arrive ici à cette dimension où on a devant soi un schéma qui représente un petit peu notre foi, notre croyance au niveau eschatologique, et puis qui est assez bien schématisé. Maintenant, si vous croyez ça, eh ben vous serez sauvé. Puis si vous y croyez pas, tout à fait, mais je pense que vous serez sauvé aussi. Parce que l'important, c'est pas de croire dans des schémas, c'est pas de croire dans une démonstration de cheminement possible, c'est de croire en Jésus, puis d'avoir une relation avec lui. Et puis les choses essentielles, c'est vraiment une dimension de foi, de relation avec Jésus. Et puis savoir comment les événements vont arriver. Les disciples étaient des spécialistes, ils posaient souvent à Jésus, mais quand c'est que ça va arriver? Dis-nous quand tu vas revenir, et que c'est maintenant, tout ça. Puis Jésus n'avait qu'une seule réponse, il dit, aie du calme, les disciples, ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous, simplement, soyez là et disponible et agissez. Demain, je vais conclure pour la quatrième phase de ces cours enracinés, puisque le pasteur m'a demandé de clôturer ces trois rencontres par une quatrième rencontre qui sera un culte. Et ce culte aura pour thème l'eschatologie. Donc demain, je vais prêcher sur l'eschatologie pour finaliser ce sujet. Et le sujet que je vais vous donner, le thème déjà, je vous le donne déjà, comme ça vous serez en primeur, c'est « Jésus revient, es-tu prêt ?»